Rose Tomate avec Christine Delangle et Rémi Fruchard.
Bonjour chers amis auditeurs. Parce que potager peut rimer avec esthétique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Duboucheron, qui est une passionnée de jardin et de botanique. Bonjour Anne.
Bonjour Christine. Bonjour Rémi.
Bonjour
alors,
Anne.
Alors dites-nous Anne, où vous êtes-vous installée pour exercer votre passion ?
Alors je me suis installée au château de la Baronnière qui est pas très loin d'Anceny, qui est à la chapelle Saint-Florent, près de Saint-Florent-le-Vieil exactement,
oui.
Dans le Maine-et-Loire. Nous avons repris cette propriété il y a 8 ans. Nous arrivions de Belgique où nous avons passé 15 ans et j'étais déjà passionnée de jardin. J'ai suivi beaucoup de cours en Belgique et ça me passionne. Cette propriété qui est le château de la Baronnière a appartenu donc en première partie au Bonchamp avant la Révolution.
Donc le général de Bonchamp.
Voilà, le général de
les
Bonchamp.
Guerres de
les guerres de Vendée, bien connues des guerres de Vendée. Puis en 1801, mon arrière-arrière-grand-père, donc les Arnoux Rivière, étaient des armateurs nantais assez connus, grande bourgeoisie nantaise. Ont acheté ce domaine très brûlé, ravagé par la Révolution.
Et a fait construire une folie nantaise, un château.
Alors, ce n'est pas une folie nantaise, c'est un vrai château 19e de René Audet.
René Audet.
De René Audet, oui, tout à fait connu dans le Maine-et-Loire. Château tout en tuffeau, un peu château conte de fées. Premier château classé comme monument historique dans le Maine-et-Loire. Et ce château avait un parc à l'anglaise. Parc en anglaise veut dire beaucoup de courbes,
ouais.
beaucoup de courbes. Évidemment, pas possibilité de mettre des fleurs. Et moi, je suis passionnée de fleurs, c'est une passion de famille. Et j'avais envie de redessiner le potager, le vieux potager qui faisait 1 hectare clos de mur.
Donc, qui existe toujours.
Qui existe toujours, mais qui était un petit peu abandonné. Il restait quelques légumes, quelques iris, quelques pivoines. Parce que ma mère aussi était passionnée de fleurs. Et j'ai tout enlevé et j'ai redessiné. Avec mon mari, nous avons tout redessiné. Nous avons fait un jardin en rond.
Alors, comment vous avez fait ?
Alors,
comment c'est parti, ce genre ? À partir de... Pour faire un rond dans un potager, ce n'est pas tellement l'habitude. On voit plutôt des lignes droites, c'est rectiligne. Alors, vous, comment avez-vous fait ?
Alors, ce potager, donc effectivement, vous avez raison, Rémi, est bien carré. Tout à fait.
Clos de mur carré.
Tout à fait clos de mur carré. Mais il y a un puits au centre. Et de ce puits, nous avons pris un petit bâton, des ficelles et sur... Et nous avons tracé des demi-cercles indéfiniment jusqu'au bout des murs. Donc des petits demi-cercles, puis des plus grands, puis des plus grands et des plus grands encore. Donc nous avons divisé, ce jardin fait donc environ sur 1 hectare qui est divisé déjà en 3 parties.
Trois parties
de clos de mur. Nous avons consacré un seul morceau qui fait à peu près 3 500 m². Donc du puits qui est le centre, on a la partie gauche, c'est un verger en amphithéâtre, donc un quart de cercle.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Il faudrait presque le voir en hauteur pour voir la façon dont il est dessiné. Mais c'est déjà très très beau. Il faudrait que nos auditeurs aillent le voir d'ailleurs, parce que vous ouvrez votre jardin, je crois.
Alors nous sommes donc monument historique classé. Nous avons fermé à la visite parce que nous avons trop de travail. Depuis 8 ans, nous reprenons ce domaine.
Ah oui.
Et fermez la visite, mais nous sommes ouverts pour les journées du patrimoine et pour les rendez-vous au jardin.
Très
donc
bien.
Au début juin et mi-septembre.
Donc deux grands rendez-vous où nos auditeurs peuvent se rendre pour découvrir ce beau jardin.
Oui, où nous organisons des visites guidées.
Très bien.
Et aussi, sur demande, nous acceptons les groupes.
Parfait.
Nous sommes fermés à la visite, mais nous avons quand même 3 500 visiteurs par an.
Oui, c'est énorme. Et alors, vous nous avez dit que vous aviez donc dessiné ce jardin en demi-cercle. Alors, de quoi est-il composé, ce jardin potager ?
Alors, le jardin potager est divisé pratiquement en 3 parties. Donc, je parlais du verger en amphithéâtre sur la gauche, donc un quart de cercle. À droite, des légumes. Et au fond de ce potager, il y a toutes les annuelles, donc des cosmos. J'ai 6 massifs. 6 grands massifs, parce que je fais environ 1000 plants de plantes annuelles. Donc, il y a des cosmos, il y a des zinnias de toutes les couleurs, il y a des cosmos framboises, des cosmos blancs, il y a des alstroemerias, il y a un massif qui est de plantes noires et vertes. Et cette année, j'ai essayé les cosmos chocolat parce que ça sent délicieusement bon.
Donc un potager avec des fleurs.
Nous y sommes allés en reconnaissance et de fait, nous avons senti senti le cosmos chocolat. Et
c'est vrai.
C'est vrai.
On peut dire à nos auditeurs, ça sent vraiment le chocolat. Et puis, il y avait des insectes, c'était merveilleux, ça bourdonnait, et des oiseaux.
Alors justement, je mets ces fleurs, c'est très important de mettre ces fleurs, parce que ça attire énormément de bourdonnants, beaucoup de papillons. Et c'est très important d'avoir beaucoup d'insectes dans un jardin. Et ce jardin, moi, je l'ai créé parce que je veux mettre aucun pesticide. Je veux absolument pas abîmer le sol, pas abîmer les plantes. Je veux qu'il y ait un véritable équilibre dans le jardin. Et c'est très important. Équilibre dans le sous-sol, donc équilibre dans le sol et aussi aérien. Parce que tout ce qui est terrestre se nourrit évidemment des insectes et des vers de terre et de tout ce qui est dans le sol.
Très bien. Et alors, on voit qu'il y a de la vie, en effet.
Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y avait une couleur blanche et grise.
Alors voilà.
Raconte, ça m'a intrigué. Ah. C'est pas l'habitude, hein.
Bon, Rémi a été intrigué par le blanc et gris.
Oui, voilà, blanc et gris d'un jardin.
Effectivement, c'est pas banal. Donc le gris et blanc. Je trouve que quand on circule dans un grand espace, il faut d'abord marquer un rythme dans un jardin ou mettre des masses. Il ne faut jamais planter une chose. Donc moi, j'ai créé un rythme en plantant des bivognonia, c'est-à-dire ce sont des chênes verts mélangés d'oliviers qui sont taillés en cônes et plantés tous les 6 mètres. Donc ça crée déjà un rythme dans tout ce qui est circulation et aller. Et entre ce bivognonia, j'ai planté des plantes grises. Ouais. Et j'ai planté des plantes grises au bord du chemin, ouais, parce qu'elles n'ont pas besoin d'eau, enfin moins besoin d'eau. Évidemment, l'été comme cette année a été tellement chaud. Donc on a eu besoin d'un tout petit peu arrosé. Mais les plantes grises, théoriquement, n'ont pas besoin d'eau.
Elles ne sont pas difficiles, elles sont résistantes.
Voilà, ce sont des plantes... Et ça donne beaucoup d'éclairage dans un jardin. On n'a pas besoin toujours de mettre des fleurs dans un jardin.
C'est vrai.
C'est pas obligatoire.
J'ai remarqué que c'était très reposant pour les yeux, justement, ce rythme.
Oui,
ces plantes grises, d'un gris d'ailleurs assez différent pour certaines.
Oui, argentées. Il n'y a pas de couleur agressive. Et vous nous aviez dit que vous n'aimiez pas le jaune.
Non, alors j'aime pas le jaune parce que, mais bon,
oui, c'est...
voilà, le jaune, les gerbes d'or, c'est aussi très joli, mais j'essaie d'éviter de mettre du jaune, je mets plutôt des oranges foncés, je mets plutôt des beaucoup de blanc, beaucoup de bleu, beaucoup de violet, beaucoup de gris, beaucoup de pivoine, j'ai aussi beaucoup de pivoine, alors de couleurs, mais toutes les fleurs, je les ai complètement canalisées dans un coin du jardin pour qu'il y ait une masse de couleurs, mais les circulations, toujours blanc et gris, toujours blanc et gris. Alors, c'est plantes grises, c'est agapanthe blanche, c'est gora blanche, c'est lavande blanche, dahlia cactus blanc, iris blanc, voilà.
Oui, mais c'est extrêmement joli. Et alors, ces plantes grises, quelles sont leurs vertus ? Alors, à part le fait d'être résistantes, elles attirent aussi les insectes ou au contraire, elles en font fuir d'autres qui ne sont pas utiles ?
Alors, par exemple, une plante grise très intéressante qui est une vraie cabane à insectes, c'est le Nepeta. Et le Nepeta, bon, il y a plusieurs variétés de Nepeta, mais le Nepeta fascini est un Nepeta qui, quand on soulève toute la masse de la plante, c'est bourré d'insectes dessous. Les lavandes font fuir beaucoup d'insectes nuisibles parce que l'odeur est trop forte.
Comme le puceron, par exemple.
Comme les pucerons. Alors, il y a beaucoup de plantes intéressantes pour les pucerons, énormément, contre les pucerons.
Oui.
Mais c'est un auto-équilibre, un jardin. Donc, il faut vraiment calculer ce qu'il y a dans le sous-sol. Il faut faire un hôtel des insectes dans un jardin. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'un hôtel des insectes peut avoir pas des insectes, mais des hérissons. En dessous, on peut mettre des gros tubes en bois où se cachent les hérissons. Nous avons eu des petits hérissons et leur mère. Et là, les hérissons vont aller manger, évidemment, les chenilles, vont manger tout ce qui est nuisible. C'est très intéressant. Ensuite, dans un hôtel des insectes, il y a des petits bois, il y a des tuiles, il y a des pierres. Ça peut attirer les orvets, ça peut attirer les guêpes, ça peut attirer des perce-oreilles. Ça peut attirer beaucoup d'insectes. Mais il en faut beaucoup d'insectes.
Il en faut beaucoup, j'ai l'impression, pour que le jardin soit vivant.
Oui.
Alors, vous avez encore des tomates, là, dans votre jardin ?
Alors, j'ai 28 espèces de tomates.
28 dans des noirs.
Et ce sont nos semis, vraiment nos petites graines que nous replantons chaque année. Ce qui est très important avec la tomate, c'est au moment où il pleut, il faut être très vigilant et mettre de la bouillie bordelaise.
Oui.
Pour éviter qu'il n'y ait plus rien, parce que ça disparaît très vite, la tomate.
Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs comme variété de tomate pas trop difficile à cultiver?
Alors moi, ma chérie, ma tomate préférée, parce que je la trouve très charnue, c'est la cornue des Andes. qui est absolument délicieuse.
Cornue, elle a une
elle
petite
est, alors elle est un petit point, elle est un peu en cœur, oui, elle est un petit peu pointue. Elle est délicieuse et elle a une saveur extraordinaire avec un petit peu de basilic, un peu d'huile d'olive et quelques grains de gros sel.
C'est le bonheur.
Ah oui,
voilà, c'est le bonheur. Oui.
Et vos tomates cerises, par exemple, quand vous en avez à profusion, qu'est-ce que vous en faites?
Alors les tomates cerises, on en a beaucoup trop très vite. Donc une très bonne recette et très facile, c'est en fin de saison, cueille toutes ces tomates cerises.
Mesdames, prenez vite un papier, un crayon et notez.
Voilà, on prend ces tomates cerises. Sur la plaque du four, on va installer un papier sulfurisé. On va couper en deux les tomates cerises. On va les mettre sur le dos pour que le jus ne coule pas dans le bon sens. On ne les met pas à plat, on les met sur le dos. On va prendre une poignée de romarin. On va couper le romarin en tout petits morceaux. Et puis, on va parsemer quelques grains de sucre pour faire caraméliser un tout petit peu, mais quelques grains de sucre, pas beaucoup de sucre, évidemment. Quelques grains de sucre, puis le romarin. Et là, 3-4 heures au four, à toute basse température.
Donc, à 50 degrés,
50 à 100 degrés, 80-100 degrés. Et puis après, dans des petits pots de confiture, et congelés surtout. C'est ce qu'il y a de mieux.
Et ensuite, vous congelez.
Congeler des petits pots de confiture, et on les verse dans une salade, et c'est décongelé en 2 minutes.
Mais c'est pas formidable pour nos salades d'automne et puis d'hiver, tout simplement. Quand le potager ne produira plus.
Voilà, et les tomates vertes, on en fait de la confiture, celles qui n'ont pas encore mûri.
Formidable. Eh bien, merci beaucoup, Anne, de nous avoir ouvert votre jardin. Et puis, j'espère à bientôt pour d'autres conseils au potager.
Eh bien, merci de m'avoir accueillie.
À bientôt, Anne.
Au revoir.
Au revoir, chers auditeurs. À la semaine prochaine.